La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Chers amis, bienvenue dans ce lieu de prière, que vous soyez là régulièrement ou bien que vous veniez pour la première fois ce matin, vous êtes ici chez vous. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, que nous soyons très éloignés ou bien tout proches, mais par le biais de ces réseaux qui nous permettent d'être ensemble, malgré toutes les distances qui nous séparent. Ce matin, Pierre Farago est avec nous et accompagnera nos chants et nos méditations à l'orgue. Merci à lui d'avoir répondu à notre invitation. Je salue aussi ce matin particulièrement l'église de Château-Thierry où nous étions avec une quinzaine de paroissiens hier pour une journée riche en découvertes et en amitié. Donc si de Château-Thierry vous regardez ce culte, vous êtes bien sûr en communion avec nous. Dans la même communion, je vous invite à la prière. Éternel, nous sommes rassemblés ce matin dans ton Église. Nous allons méditer l'enseignement que tu offres en ton Fils Jésus-Christ. Bénis ce temps dans notre vie et que la communion visible que nous allons vivre ce matin soit le reflet fidèle de l'amour mutuel que nous avons dans nos cœurs. Amen. Et nous nous levons. Nous louons Dieu, Père aux cieux, vaste est ton infini royaume, toi qui portes le poids des globes célestes et gouvernes les forces du monde dans l'énormité des espaces, innombrable comme le sable et la multitude de ceux qui ne vivent et n'existent que par toi. Et pourtant tu écoutes le cri de tous, aussi de l'homme que tu as formé particulièrement pour toi, tu écoutes le cri de tous, et cela sans te prendre au désordre de leur clameur ni au préjudice d'aucun d'eux, comme si tu faisais des différences. Non seulement tu entends la voix du responsable d'un grand nombre, au nom de qui il pourrait te prier, comme s'il t'était plus proche parce qu'il est au sommet, et non seulement la voix de celui qui prie pour ses aimés, comme s'il était mieux à même d'attirer sur lui ton attention, lui qui a cet avantage du bonheur d'avoir ses aimés. Non, le dernier des hommes, le plus abandonné, le plus seul, au désert ou dans le tourbillon des foules, tu l'écoutes. Quand bien même l'oubli l'aurait séparé de quiconque, et fut-il dans la foule devenu méconnaissable, néanmoins, tu le discernes, tu ne l'as pas oublié, tu te rappelles son nom, tu sais où il est caché, s'il est au désert ou perdu de vue dans la foule. Et serait-il au fond des ténèbres de l'angoisse, avec d'horribles pensées, abandonné des hommes et presque de la langue que parlent ses semblables, tu ne l'as pas oublié. Tu comprends son langage, tu sais vite trouver le chemin pour le rejoindre, aussi vite que le son ou que l'éclair de la lumière. Et si tu traînes, ce n'est pas lenteur mais sagesse. Et si tu traînes, ce n'est pas lenteur mais seulement parce que tu connais la vitesse de ton secours. Et si tu traînes, ce n'est pas mesquine lésinerie, mais parcimonie paternelle, qui garde le meilleur pour l'enfant dans le plus sûr des lieux, pour l'instant le plus opportun. Seigneur Dieu, vers toi crie l'homme au jour de détresse, et il te rend grâce au jour de joie. Amen. Et nous chantons ensemble dans les cantiques louanges et prières, le cantique 135, et nous chanterons les strophes 1 et 2. Et je vais demander à Pierre s'il veut bien nous jouer la première, la mélodie. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons dans le prophète Ésaïe la volonté de Dieu pour son peuple. Il nous parle du jeûne. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager son pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Ensemble, nous confessons ce qui nous sépare de Dieu en nous divisant intimement. Délivre-moi, Seigneur, de la paresse qui s'agite déguisée en activité, de la lâcheté qui accomplit ce qu'on ne demande point mais élude un sacrifice. Mais donne-moi l'humilité en qui seul est le repos, et délivre-moi de l'orgueil qui est le plus lourd fardeau. Pénètre mon cœur, toute mon âme, de la simplicité de l'amour. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce sans cesse renouvelée sur nos vies. Et nous écoutons Dietrich Bonhoeffer qui nous parle de cette grâce qui supplante toutes ces divisions intimes. Et voilà ce qu'il écrit. Voici que la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre aux gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit: tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement, mais tu peux aller, tel que tu es, à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien, il te veut toi-même, toi seul. Dieu est venu jusqu'à toi, pécheur, pour te sauver. Réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Le masque que tu portes devant les hommes ne sert à rien devant lui. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en te faisant passer pour un sans péché. Non, ici, Il t'est permis d'être un pécheur, alors remercie Dieu. Nous confessons notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, je partage avec vous un texte de l'Évangile de Matthieu. Au chapitre 23, les strophes 1 à 28, un texte difficile qui montre pour une fois Jésus en colère. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples : Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères, ils agrandissent les houppes de leurs vêtements, ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners, et les premiers sièges dans les synagogues. Être salué sur les places publiques et être appelé rabbi par les gens. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous fermez aux gens le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Quel malheur pour vous, guides aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure sur l'or du sanctuaire, alors il est engagé. » Fou et aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui consacre l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'offrande sur l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le sanctuaire et par qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guides aveugles, qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. Je vous invite à prendre le cantique 202 pour vous réconforter. Thank you. Nous prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous au moment où nous lisons ces lignes. Permets que nous y entendions notre propre édification. Permets que nous puissions nous-mêmes vivre fidèlement, que nous puissions vivre en alliance avec toi, dans la vérité et la fidélité. Amen. Vous l'avez entendu, Jésus est en colère. Hypocrite, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat alors qu'au-dedans ils sont pleins de rapacité et d'excès. Comment ne pas entendre pour soi-même une telle charge alors que nous allons partager ensemble la scène ce matin ? En mémoire d'un homme qui est mort d'avoir dit jusqu'au bout ce que sa foi lui dictait de faire en conscience et que nous aurions eu tant de mal à suivre. Purifie d'abord l'intérieur de la coupe, recommande Jésus, sans ménagement, à ses coreligionnaires. Comment nous garder de toute hypocrisie ? Est-ce possible ? Quand on parle d'hypocrisie religieuse et quand on lit ce texte de l'évangile de Matthieu avec ces pharisiens qui allongent les houppes de leurs vêtements et qui élargissent les phylactères qu'ils enroulent autour de leurs bras pour montrer leur piété et tout l'ascétisme qui les qualifie, comment ne pas penser aux Tartuffes de Molière ? Mais pourtant, il y a un autre auteur qui, analysant ce qu'est l'hypocrisie des dévots de son temps, se propose de nuancer la peinture que fait Molière de ce Tartuffe, en dressant le portrait d'un autre personnage qu'il va appeler Onufre. Un joli prénom pour vos enfants, Onufre. Voici le personnage créé par Jean de la Bruyère dans ses fameux caractères. Onufre n'a pas pour tout lit qu'une housse de serge grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet. De même, il est habillé simplement, mais commodément, je veux dire d'une étoffe fort légère en été et d'une autre fort moelleuse pendant l'hiver. Il porte des chemises très déliées qu'il a un très grand soin de bien cacher. Il ne dit point sa haire et ma discipline, c'est une allusion directe au Tartuffe de Molière. Donc, il ne parle pas de cette grosse chemise de serge et de ce qui permet de se flageller soi-même. Au contraire, il passerait pour ce qu'il est, pour un hypocrite, et il veut passer pour ce qu'il n'est pas, pour un homme dévot. Il est vrai qu'il fait en sorte que l'on croit, sans qu'il le dise, qu'il porte une haire et qu'il se donne la discipline. S'il marche par la ville et qu'il découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu'il soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l'air recueilli lui sont familiers. Il joue son rôle. S'il entre dans l'église, il observe d'abord de qui il peut être vu. Et selon la découverte qu'il vient de faire, il se met à genoux et prie. Ou bien il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Il évite une église déserte et solitaire où il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui en sût gré. Non, il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand concours. On n'y manque point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l'année où, à propos de rien, il jeûne ou fait abstinence. Mais à la fin de l'hiver, il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre. Il se fait prier, presser, quereller pour rompre le carême dès son commencement, et il en vient là par complaisance. Cet Onufre, dont parle Jean de la Bruyère, porte le nom d'un anachorète d'Égypte du IVe siècle, qui vivait dans un dénuement tel qu'au bout de plusieurs années de privation, les poils de sa barbe et ses cheveux, par leur longueur, lui tenaient lieu de vêtements, vous imaginez. Ce n'est donc pas un hasard si la vénération de ce saint s'est développée dans les églises de la contre-réforme, comme modèle d'ascétisme contre les débordements d'un clergé mondain. L'ironie de la Bruyère, quand il donne ce nom à son personnage, se comprend donc d'autant mieux que son Onufre, est le contraire de l'anachorète du IVe siècle. Il montre une dévotion qu'il ne vit pas sincèrement. Il aime être entouré de spectateurs pour son jeu et poursuit les richesses et les plaisirs. La Bruyère démasque le jeu de représentation que met en place son Onufre. Mais comment démasquer réellement l'hypocrisie? Qui peut distinguer la sincérité de l'hypocrisie? En grec, le mot désigne les acteurs de théâtre qui, cachés sous leur masque, représentent à la scène une passion, grâce à une grimace, à l'inclinaison des sourcils, à l'expression de la bouche ou à l'impassibilité des traits. L'hypocrite masque ses passions et en même temps les révèle. Il choisit ce qu'il veut montrer en fonction de ce qu'il veut cacher afin de poursuivre son but. Mais ne sommes-nous pas toujours pris dans ces jeux de représentation qui fonctionnent comme des masques et qui nous permettent aussi de vivre en société avec des codes qui pourront être déchiffrés et acceptés par nos contemporains? Qui pourrait vivre dans notre société en disant comme Onufre l'Anachorète le disait, « N'est-on pas nu devant le Seigneur, seul témoin de mon existence ?» Nous ne vivons pas en ermite et les rapports sociaux nous obligent à porter le masque de la sociabilité. Qui, sortant de chez lui en colère, ne mettra pas le masque de la gentillesse en croisant la voisine qui ignore toutes les raisons de sa colère? Qui, en entrant dans une église et redoutant de croiser celui qu'il n'a pas envie de rencontrer à cause d'une divergence de vue passée, ne mettra pas sur son visage l'expression de la plus grande politesse et peut-être même un sourire en l'apercevant dans les allées de l'église? Mais Jésus ne parle pas de ces masques de la sociabilité tournés vers les autres et qui nous permettent de vivre les uns avec les autres sans trop de violence. Il parle des masques qui dissimulent la ruse et poursuivent une intention égocentrique. Car il s'agit bien de passer pour un saint à moindre coût. En religion comme en morale, l'hypocrite se reconnaît à la façon de pointer les petites choses, celles qui ne nous coûtent rien, comme si elles étaient l'essentiel du problème, afin qu'elles masquent le véritable problème. Par exemple, reprendre un orateur sur sa diction ou son vêtement, pour ne pas parler de ce qu'il dit et qui dérange mon narcissisme parce qu'il a touché juste. C'est le point sur lequel Helvétius, un auteur du XVIIIe, insiste dans son essai intitulé « De l'esprit ». Dans un contexte qui n'est pas exactement le contexte religieux, mais qui peut s'y transcrire aisément. Il écrit « J'entends par hypocrite celui qui, n'étant point soutenu dans l'étude de la morale pour le désir du bonheur de l'humanité, est trop fortement occupé de lui-même. » Il est beaucoup d'hommes de cette espèce. On les reconnaît d'une part à l'indifférence avec laquelle ils considèrent les vices destructeurs des empires et de l'autre à l'emportement avec lequel ils se déchaînent contre les vices particuliers. L'accent est mis ici sur le dévoiement de l'intérêt général par l'intérêt privé. N'est-ce pas précisément dans un contexte politique ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens dans un contexte religieux quand il leur dit « Guides aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau » Combien de fois ces interlocuteurs zélés viennent-ils reprocher à Jésus des choses de l'ordre du détail? Comme par exemple, pourquoi tes disciples ne se lèvent-ils pas les mains avant de manger? Ou encore, pourquoi tes disciples arrachent des épis le jour du sabbat? Mais pendant ce temps, se soucient-ils de ce qui prive les plus pauvres de nourriture? Se demandent-ils ce qu'il faut faire pour accueillir les rejetés de leur société et manger avec eux? Ont-ils oublié l'esprit de la loi de Moïse? Martin Luther, dans sa préface à l'Épître aux Romains, définit la loi dont parle Paul. Il la définit ainsi. Le petit mot « loi », tu ne dois pas le comprendre de manière humaine, à savoir que c'est un enseignement sur les œuvres à faire ou à ne pas faire. C'est ainsi qu'il en va des lois humaines, où l'on satisfait la loi par des œuvres, même si le cœur n'y est pas. Dieu juge d'après le tréfonds du cœur. C'est pourquoi sa loi exige aussi le tréfonds du cœur. Il ne se contente pas des œuvres. Il condamne bien plus les œuvres qui ne sont pas faites du fond du cœur, comme étant de l'hypocrisie et du mensonge. Quand le réformateur écrit, il s'adresse à son lecteur en le tutoyant, car il parle à sa sincérité, à sa conscience, à ce qu'il est devant Dieu quand il sait que Dieu voit au travers de ses masques, quand il est seul face à lui. Il n'est donc pas en train de condamner quiconque, ni en train de porter un jugement moral sur un hypocrite. Il remet la loi dans la perspective de la confiance entre l'humain et son Dieu, dans la perspective de la foi. Quand agissons-nous par amour de Dieu et du prochain? Quand nos prières et nos chants sont-ils habités par cette foi confiante qui nous dispense de mettre des masques, les masques que nous avons fabriqués pour nous offrir à bon compte, souvent, une image de piété? Quand le respect de la règle occulte l'esprit de la règle, alors l'hypocrisie nous guette. En grec, le jeu de l'acteur se dit « hypocrisis », la crise sous-jacente, la crise cachée. Quelle est cette crise que nous ne voulons pas voir étalée au grand jour? Quelle est cette division intime que nous voulons cacher sous nos masques quand nous faisons passer le détail d'un rituel avant la grandeur de la grâce? Quand nous nous accrochons à des pratiques circonstancielles en les élevant au rang de tradition pour mieux juger ceux qui ne les respecteraient pas? Ne sommes-nous pas comme Onufre en Égypte ou Adam au jardin d'Éden, tous nus devant Dieu? Quelle ruse pourrait bien l'abuser, ce Dieu qui connaît tout de notre condition humaine? L'hypocrisie est un défaut de grâce, une misère spirituelle. Et il n'est pas simple de pouvoir y échapper. La largesse de cœur que Dieu nous commande à son égard, mais aussi à l'égard de notre prochain, est peut-être d'abord une largesse à notre égard. Car si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous aime, malgré le mal que nous faisons, et le bien que nous ne faisons pas, alors nous restons dans la peur d'un Dieu qui condamne ce qu'il est précisément venu sauver. Et nous nous cachons derrière les masques. Nous restons sous le régime de la loi sans vivre jamais la grâce. Et c'est précisément ce que Jésus reproche à ces spécialistes de la loi qui la comprennent si mal et qui s'en servent tellement. Et il dit à ceux qui veulent le suivre, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse, faites et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Jésus nous aide à obéir à l'esprit du christianisme sans nous laisser duper par ses masques. Et ceux qu'il traitait d'abord d'hypocrites, dans sa grande miséricorde, il les appellera ensuite aveugles. Aveugles sur leurs péchés, aveugles sur l'amour inconditionnel de Dieu pour eux, aveugles sur ce qui leur est offert dans la grâce. Comme ce personnage de parabole qui accueillit le fils prodigue, Dieu ouvre les bras pour nous accueillir et nous bénir. Alors de quoi manquerions-nous? Pourquoi aurions-nous besoin de nous cacher? La scène que nous allons partager ensemble, chers frères et sœurs, est la sincérité que Jésus le Christ nous propose de vivre ensemble. Une communauté d'hommes et de femmes en communion les uns avec les autres, toutes et tous aimés de Dieu, et partageant le même pain, le même vin, le cœur nu devant Dieu. Amen. Je vous invite à prendre dans les psautiers français le psaume 72, les strophes 1, 2 et 3. Et nous chantons. Voilà, c'est maintenant le moment de partager quelques annonces avant d'entrer dans la liturgie de la scène. Et c'est Aurore, notre présidente du conseil, qui va partager les annonces avec nous.
Merci Béatrice. Bonjour à tous. Au nom du conseil presbytéral, merci d'être avec nous, de partager cette scène. Merci à ceux qui sont en ligne. Aujourd'hui, nous avons la Côte d'Ivoire, la Belgique, l'Alsace, les Cévennes, je vais en oublier, Nantes, et j'ai dû en oublier un, hein, qu'il me pardonne. Mais nous avons beaucoup de monde en ligne. Vous avez entendu Béatrice, vous n'allez pas vous attacher aux détails, mais nous allons partager la scène ensemble, ce qui signifie qu'il va falloir que vous nous aidiez un peu, parce que nous sommes en période de Covid, donc vous allez rester à votre place, mais debout, pour nous faciliter le passage entre les rangs. Nous vous déposerons le pain dans la main avec un gant et vous vous servirez du vin. Et nous reviendrons prendre les verres une fois que nous aurons partagé la scène ensemble. Jeudi, pause spirituelle, toujours sur l'Épître aux Romains.
Oui, nous continuons notre parcours dans l'Épître aux Romains, à midi et demi.
Ici même. Et dimanche, la tradition veut que nous commémorions le massacre de la Saint-Barthélemy qui a eu lieu le 24 août. Donc dimanche prochain, après le culte, pour ceux qui le désirent, nos pasteurs, parce que Agnès sera rentrée de vacances, Nos pasteurs viendront déposer une gerbe de fleurs devant la statue de Coligny. Et j'en profite pour remercier les jardins de la ville de Paris, l'équipe des jardins de la ville de Paris, qui est venue nous faire une démarche et un jardin très agréable à regarder, parce qu'hier, ça faisait un peu à l'abandon. Donc, ils sont venus en urgence nous nettoyer le jardin. Également, un grand merci, j'en profite dès aujourd'hui, à 4 de nos bénévoles qui ont aidé les conseillers, parce que beaucoup de conseillers sont en vacances. Un grand merci à Catherine, Vito, Jansch et Lovelink, qui vont aussi nous aider à partager la scène, parce que c'est beaucoup de petits détails incultes.
Et derrière l'écran, Jean-Luc.
Et derrière l'écran, Jean-Luc, mais qui est toujours fidèle, qui n'est jamais en vacances. Il est juste en distance. Merci à tous et bon dimanche.
Et je vous invite maintenant à partager ce que vous voulez offrir pour que cette Église continue à annoncer l'Évangile. Je vous invite à un temps d'offrande partagé tous ensemble. Merci. Et vous avez le panier connecté qui est à votre disposition. Il suffit de vous signaler. Merci. Nous louons le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Je vous invite à vous lever. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde, avec ses déchirements, avec l'hypocrisie religieuse qui aboutit sur la cruauté, sur des peuples qui sont asservis par des théocraties terribles. Donne-nous, Seigneur, de combattre cette hypocrisie au cœur même de notre vie. Permets que nous commencions toujours par nous-mêmes et que nous puissions annoncer ta parole de vérité. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont victimes de cette hypocrisie, tous ceux que l'on vient harceler dans les toutes petites choses de leur vie, jusque dans leur intimité. Au nom de ton nom, Seigneur, au nom d'un Dieu qu'ils imaginent être leur arme, bénis tous ceux qui subissent ce mal. Et ensemble, nous te disons dans la confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour cette scène partagée. Permets que ce repas ouvre nos cœurs à ce monde, que nous puissions, par ta nourriture, le nourrir de ta bénédiction et de ta bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce temps de halte était un temps à l'écoute du Seigneur, mais toute votre vie est un temps avec Dieu. Il ne vous abandonne jamais. Allez avec la confiance de ceux qui se savent aimés. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen.